Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Arnaud Pontus.
Bonjour et bienvenue dans Appel sur l'actualité. L'antenne de RFI vous est ouverte. Dans un instant, vos questions sur l'actualité. On parlera de l'annonce d'un cessez-le-feu en Libye, du retour de l'opposant Martin Fayoulou en RDC et des discussions entre la CDAO et la junte malienne. Puis dans 30 minutes, le débat du jour autour de la prochaine élection présidentielle américaine. Le vote a lieu dans 10 semaines, à peine le 3 novembre prochain. Les deux grands partis sont en ordre de marche après les démocrates la semaine dernière. Les républicains tiennent leur convention depuis lundi, Joe Biden et Donald Trump ont été officiellement investis candidats. Alors que vous inspirent ces deux hommes? Qui a votre préférence? Vous sentez-vous concerné par ce scrutin et ses enjeux? On en parle avec vous tout à l'heure. Et on va dès maintenant, grâce à la question de Tiburce, s'intéresser à un des gros points de désaccord entre démocrates et républicains aux États-Unis. Bonjour Tiburce.
Bonjour à nos producteurs et bonjour aux auditeurs des récits.
Vous nous appelez de Libreville au Gabon et vous vous interrogez au sujet du vote postal, le vote à distance qui sera proposé à des millions d'Américains pour choisir leur président. On vous écoute.
Exactement. Aux États-Unis, les démocrates proposent au vote postal pour éviter les risques de propagation de la pandémie de Covid-19. Mais les républicains s'opposent à ce vote. Aussi, j'aimerais savoir quelles sont les modalités de ce vote postal.
Alors, Tiburce.
Et représente-t-il. Oui.
Oui, alors pour répondre à cette première question, Tiburce, on est en ligne avec Corentin Sénin, spécialiste des États-Unis, professeur d'histoire en classe préparatoire, un habitué de l'émission. Bonjour Corentin Sénin.
Bonjour.
Tiburce vous demande comment ça marche le vote par correspondance aux États-Unis et est-ce que ça marche déjà?
Oui, alors ça marche déjà au sens où c'est une procédure qui a progressé au fil des années. En 2016 déjà, on estimait qu'environ un Américain sur cinq avait voté par correspondance. Donc ça existait déjà. Il y avait même cinq États, avant la Covid, qui votaient uniquement et qui votent uniquement par correspondance. Hein, cinq États où on ne vote que par courrier. C'est difficile de dire comment ça marche, puisqu'il faut rappeler qu'aux États-Unis, c'est chaque État organise le vote comme il l'entend. Donc les modalités peuvent varier un petit peu. Mais globalement, ça se passe comment? D'ici quelques jours, dans certains États, ça va commencer très vite, les électeurs vont être invités à demander, il faut qu'ils fassent une démarche, hein, il faut qu'ils demandent un bulletin qu'on va leur envoyer, et ce bulletin, ils devront l'envoyer dans une fenêtre de temps, alors qui varie justement selon les États, mais évidemment, pas après le jour de l'élection le 3 novembre, afin que leur bulletin par correspondance soit comptabilisé. Il y a deux, globalement, hein, pour simplifier, il y a deux moyens. Soit ils vont renvoyer par courrier, soit ils vont déposer dans des boîtes prévues à cet effet. Dans certains États aussi, et on voit que c'est assez sécurisé, ils peuvent ramener eux-mêmes leur bulletin par correspondance au bureau des élections, mais évidemment pas le jour de l'élection même.
Oui. Est-ce que tous les Américains pourront ou pourraient voter de cette façon par correspondance cette année?
Alors, énormément d'États ont facilité l'accès au vote par correspondance, le rendant accessible à tous, mais à l'heure où l'on se parle, il y a encore 8 États sur 50 où on ne peut pas voter par correspondance sans justification, c'est-à-dire où il faut fournir une raison, on n'est pas là le jour du vote, on est en déplacement à l'étranger, etc. Donc il y a encore 8 États à l'heure où on se parle qui ne sont pas passés à cette modalité, mais actuellement, ce serait les 3/4 des électeurs américains environ qui pourraient voter par correspondance sans justification, comme ils l'entendent.
Donc une énorme majorité. Tiburce avait une deuxième question à ce sujet. On vous écoute, Tiburce.
Oui, représente-t-il des risques de fraude massive comme le prétend le président Donald Trump?
Alors, est-ce que le vote par correspondance, c'est la porte ouverte à la fraude, Corentin Sénin?
Pour l'instant, non, on ne peut pas l'affirmer. Il n'y a aucun élément factuel qui confirme ce que proclame le président Trump, mais sans aucune preuve. J'en prendrai pour la meilleure preuve. Il y a une organisation pourtant conservatrice, républicaine, la Fondation Héritage, qui a mené une enquête en Oregon, où on vote par correspondance depuis 20 ans.
Oui.
Et donc, ils ont trouvé que sur plusieurs dizaines de millions de bulletins, il y avait eu 14 cas de fraude en 20 ans sur plus de 15 millions de bulletins.
Oui, donc c'est ridicule, c'est rien du tout.
C'est absolument rien du tout. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'éléments factuels. Donald Trump dit cela parce que on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, il pense que ce vote par correspondance favorise les démocrates, ce qui n'est pas du tout établi, et c'est ce qui a amené par exemple avant-hier son propre directeur de campagne à nuancer ses propos et à dire il y a des États où le vote par correspondance est sûr, comme la Floride où vote d'ailleurs le président par correspondance, et là vous pouvez y aller. Donc on voit que même dans son camp, ces affirmations de fraude de Donald Trump sont contestées.
Oui, s'il y a des fraudes, ça peut être aussi bien côté démocrate que côté républicain. Est-ce que pour Donald Trump, c'est quand même pas une façon de contester par avance une possible défaite ?
Si, en effet, c'est surtout un combat politique. C'est-à-dire que ce que Donald Trump cherche à faire, c'est rendre le résultat le plus illisible possible le 4 novembre au matin et pouvoir, et il s'y prépare là avec le Parti républicain, ils ont investi beaucoup d'argent, à des dizaines de procédures judiciaires. On pourra attaquer, par exemple, tous les bulletins de vote où la date n'apparaîtra pas clairement, la date d'expédition n'apparaîtra pas clairement. C'est une hypothèse, par exemple. Et donc, on voit bien qu'effectivement, le but est politique, c'est d'obscurcir, de brouiller le résultat du scrutin pour le rendre en particulier, possiblement, attaquable en justice et retarder un résultat clair et définitif s'il venait à être favorable à Joe Biden.
Merci à vous, Corentin Célin, pour ces explications. Spécialiste des États-Unis, professeur d'histoire en classe préparatoire. Tiburce, est-ce qu'on a bien répondu à vos questions ?
Oui, je suis très satisfait. Merci à vous.
Merci à vous et bonne journée. On reparle des États-Unis et de cette élection présidentielle dans le débat, hein, dans un peu plus de 20 minutes maintenant. Pour la deuxième question du jour, on rejoint Noël à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Noël.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous aimeriez des éclaircissements sur le cessez-le-feu annoncé vendredi dernier en Libye?
Oui, tout à fait. Le GNA et le Parlement du Tobrouk en Libye, ont annoncé une interruption des combats et la tenue prochaine d'élections. Alors, je voudrais savoir quels sont les éléments à l'origine de cet accord relativement inattendu et quel espoir que ce cessez-le-feu soit plus pérenne que les précédents.
Alors, pour vous répondre, Noël, Ouda Ibrahim, journaliste au service Afrique de RFI, est avec nous en ligne. Bonjour Ouda.
Bonjour Noël, bonjour Arnaud.
Quels sont les éléments à l'origine de l'accord, Ouda ?
Alors, ce qu'il faut mentionner, c'est que cette annonce, cet accord a été forcé par une pression américaine. Les Américains veulent geler la situation en Libye jusqu'aux dates des élections américaines et ils ont œuvré pour une baisse de tension, dans ce pays. Mais il y a aussi les efforts de Aguil Saleh, le chef du Parlement libyen basé à Tobrouk. Il avait lancé une initiative qui a été adoptée par le Caire, puis par la Ligue arabe. Et cette initiative a fait l'objet d'une rencontre entre lui et le président du Haut Conseil de l'État libyen, Khaled al-Mishri, au Maroc le mois dernier, une rencontre qui n'a pas été dévoilée, mais qui a fait avancer les choses.
Alors, Ouda, depuis le 5 juin dernier, il y a une forme de cessez-le-feu qui a été installée, hein, de facto, après des lignes rouges définies par le président égyptien, El-Sisi.
Oui, et mis à part quelques tentatives d'avancer vers Sirte de la part des forces du GNA et des frappes des forces de Khalifa Haftar qui ont répondu et qui ont stoppé ces convois, ainsi que quelques frappes de Haftar contre les installations de systèmes de défense anti-aérienne turque dans les bases militaires à l'ouest libyen, il y a eu effectivement une forme de cessez-le-feu. Les deux parties cherchent des solutions pour éviter la division du pays. La condition du GNA était d'exclure Khalifa Haftar de toute discussion politique. Il y a eu donc cette initiative du chef du Parlement qui était relativement acceptée à Tripoli.
Alors, mais l'annonce de cessez-le-feu, reste tout de même très fragile.
Bien sûr, l'annonce reste limitée à ces deux personnes, à savoir Fayez Sarraj, le chef du gouvernement reconnu par la communauté internationale, et Aguil Saleh, le chef donc du Parlement. Elle ne survivra probablement pas à l'épreuve de la réalité, tout comme le nombreux précédents accords. Ces deux personnes ne gèrent vraiment pas les forces présentes sur le terrain. Les milices de Tripoli ne sont pas maîtrisées par le GNA. Le les forces de Khalifa Haftar ne sont ordonnées que par lui. Ils ne sont pas ordonnés par le chef du Parlement comme le veut la Constitution. Les deux personnalités n'ont donc pas le pouvoir d'imposer ce cessez-le-feu. D'ailleurs, rien n'a changé depuis la semaine dernière et les exactions de la part et d'autres continuent sur les terrains. Les milices de Tripoli ont par exemple arrêté de nombreuses personnes dans la ville d'Al-Asabra à l'ouest, accusées de soutenir Khalifa Haftar. Quant aux forces de Khalifa Haftar, ils ont attaqué un centre d'élection municipale dans la ville de Tréhren au sud, manière de dire que exclure Haftar de l'équation politique n'est pas possible et que la paix ne se fera pas sans lui en Libye.
C'est le feu très fragile, on le comprend. Ouda, Noël, vous aviez une deuxième question.
Oui, et justement, comment explique-t-on l'absence du maréchal Haftar dans cet accord?
Alors, pourquoi n'est-il pas dans l'accord, Ouda?
Alors, depuis sa perte de la guerre de Tripoli, c'est la carte de Aguila Saleh, le chef du Parlement, qui est jouée en Libye par les soutiens étrangers de Haftar. Il est mis au devant de la scène politique pour représenter le camp de l'Est libyen à la place de Haftar, abandonné par plusieurs de ses soutiens à l'étranger. Khalifa Haftar est soutenu par l'Égypte, qui avance aujourd'hui la solution politique portée par cet autre représentant du camp de l'Est. Mais Khalifa Haftar est toujours capable de nuire toute solution qu'il exclut et exclut son armée en Libye.
Oui, merci Ouda Ibrahim pour ces précisions et ce décryptage. Noël à Abidjan, est-ce qu'on a répondu à vos questions ce matin?
Oui Arnaud, c'est parfait, merci.
Merci beaucoup et bonne journée en Côte d'Ivoire, bonne journée à vous. Nous sommes maintenant avec Eddy Divin en ligne de Kinshasa en République démocratique du Congo. Bonjour Eddy Divin.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Vous avez des questions concernant le retour de l'opposant Martin Fayoulou. On vous écoute.
Certainement. Samedi dernier, Martin Fayoulou est rentré à Kinshasa après 5 mois passés à l'étranger. Et que le jour même de son retour, il a tenu un discours. Du coup, surgit en nous des interrogations pour comprendre. Que cherche-t-il de son retour, de son tournée en Europe et aux États-Unis?
Oui. Alors, on va poser cette première question, si vous voulez bien, Eddy Divin, à notre correspondant, l'un de nos correspondants en République démocratique du Congo, Patient Ligodi. Bonjour, Patient.
Bonjour.
Pourquoi Martin Fayoulou était-il parti en tournée à l'étranger?
Pour Martin Fayoulou, c'est d'abord une opération de communication débutée à l'intérieur du pays. Il se fait appeler soldat du peuple et s'est donné comme mission la recherche de la vérité des urnes. Il veut montrer, il est dit, qu'il n'est pas fatigué et qu'il ira jusqu'au bout de ses combats, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Et en même temps, Martin Fayoulou a aussi ce qu'il appelle un plan de sortie de crise. Ses voyages à l'étranger, c'était également pour faire la promotion de ses plans, qui se décline en plusieurs axes, dont la mise en place de ce qu'il appelle haute autorité des réformes institutionnelles et l'organisation des élections anticipées.
Alors, Eddy Divin a une deuxième question pour vous, Patient. On vous écoute, Eddy Divin.
Quelle stratégie de Martin Fayoulou pour être la voix principale de l'opposition et d'apporter le changement qu'il a promis?
Alors, Patient, une réponse.
Oui, pour Martin Fayoulou, lui, il pense qu'il veut mobiliser en permanence sa base à travers des meetings, des sit-ins et d'autres types de rassemblements. Et chaque fois que l'actualité politique lui donne l'occasion, il ne manque pas de s'afficher. Il est présent sur toutes les thématiques, insécurité, santé, politique, économie, etc. Et dans son discours, il cible les points faibles de la présidence de Félix Tshisekedi et s'attaque vigoureusement à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qu'il présente comme celui qui dirige le pays. Pour obtenir notamment les réformes institutionnelles et les élections anticipées, ces deux principales revendications actuellement, il a promis de mobiliser d'une manière permanente ses partisans et au besoin, ils iront à siéger le bâtiment du Parlement.
Merci. Eddy Divin, on a le temps pour une dernière question, alors on vous écoute.
Bénéficie-t-il toujours de soutien des poids lourds de Lamouka comme Bemba et Katumbi?
Alors l'opposition congolaise, on le sait, réunie au sein de la plateforme Lamouka. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi sont prêts à laisser le leadership en quelque sorte à Martin Fayoulou, Patient?
Oui, deux tendances dégagent actuellement à la Mouka. Il y a l'aile qui se considère comme étant de l'opposition dite républicaine et incarnée, vous l'avez dit, par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Il y a l'autre camp qui dit être plutôt dans la résistance. Notez la résistance. Ce camp est représenté par Adolphe Mozito, l'ancien Premier ministre, et Martin Fayulu. Entre-temps, Moïse Katumbi est aujourd'hui très investi dans le développement de son propre parti politique qui s'appelle Ensemble pour la République. Et Jean-Pierre Bemba, depuis la fin des élections, a essayé de restructurer et de dynamiser, et une fois de plus, le MLC, les mouvements de libération du Congo, sont partis. Il faut également dire que les agendas et les priorités actuellement ne semblent pas être les mêmes, en dépit du fait que tous quatre se réclament encore et toujours de la Mouka.
Merci Patient Ligodi pour ces précisions, et merci à Eddy Divin qui nous appelait de Kinshasa pour ces questions sur le retour de Martin Fayulu en RDC. 10h26 à Paris, on va refermer cette première partie d'appel sur l'actualité avec Amadoun qui nous appelle de Mopti au centre du Mali. Bonjour Amadoun.
Ah, bonjour Arnaud, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
Bienvenue à vous sur l'antenne. Vous avez une question concernant la situation dans votre pays après le coup d'État et plus spécialement concernant la médiation ouest-africaine.
Effectivement. En fait, j'ai une seule question.
Eh bien, on vous écoute.
Les discussions entre les émissaires de la CEDEAO et les représentants de la junte militaire se sont terminées sans qu'un accord ne soit trouvé. Alors, j'aimerais savoir quels éléments ont empêché les deux parties à parvenir à un accord.
Pour vous répondre, Coralie Pierret, journaliste au service Afrique de RFI, est en ligne. Bonjour Coralie.
Bonjour.
Alors, pour rappel, on va dire que pendant 3 jours, les militaires et la médiation de la CEDEAO ont enchaîné les réunions pour tenter de s'accorder sur la mise en place de la transition.
Oui, la mission de la CEDEAO menée par Goodluck Jonathan est repartie lundi, effectivement, sans faire de déclaration officielle. L'ancien président nigérien s'est juste livré à quelques brèves explications face à la presse. Mais la délégation est partie, en fait, faire un compte-rendu au président de la CEDEAO avant que cette institution ne livre ses conclusions vendredi après une réunion par visioconférence. Pour le moment, nous avons pu nous entendre sur certains points, mais pas encore sur tout, disait lundi Goodluck Jonathan.
Alors, sur quoi se sont-ils entendus, Coralie ?
Alors, la junte a autorisé la mission de la CEDEAO à rencontrer le président déchu Ibeka, une rencontre pour s'assurer de son état de santé et de ses conditions de détention. La CEDEAO plaide pour que le président puisse retrouver sa liberté et qu'il puisse voyager pour des soins en cas de besoin, ce à quoi la junte ne s'est pas opposée, même si pour le moment rien n'a changé et que Ibeka est toujours aux mains des militaires. La junte qui insistait lundi d'ailleurs devant la CEDEAO sur le fait que le président a démissionné sans contrainte, disent les militaires.
Oui, et visiblement, un retour d'Ibeka au pouvoir, comme le souhaitaient les chefs d'État de la CEDEAO la semaine dernière, semble s'éloigner progressivement. Il reste à dessiner tout de même les contours de la transition, Coralie.
Oui, il y a 2 points centraux qui n'ont pas encore fait l'objet de compromis pour le moment. La durée et le nom du futur président de la transition. Selon le ministre nigérien des Affaires étrangères, les propositions faites par les militaires ne sont pas encore satisfaisantes. La transition ne doit pas durer, expliquait-il au micro de RFI lundi. Par conséquent, elle ne peut pas s'installer sur plusieurs années. Le délai de 7 à 12 mois semblerait acceptable. Il vaudrait mieux rester dans ce cadre-là, poursuit le ministre. Alors, pour le moment, les militaires n'ont pas refusé, mais demandent du temps pour y réfléchir.
Alors ça, c'est pour la durée. Il nous reste quelques secondes pour évoquer la personne qui dirigera la transition. Là-dessus, il n'y a pas non plus de consensus.
Non, pour le moment, il n'y a pas de consensus. En effet, la CEDEAO insiste, le président de la transition devra être impérativement un civil ou un militaire, mais un militaire à la retraite. Pour le moment, rien n'est officiel, même si quelques noms circulent déjà. Mais pour le moment, les discussions se poursuivent.
Merci à vous, Coralie Pierret, journaliste au service Afrique de RFI. Amadoun, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Oui, vous avez répondu parfaitement à mes questions.
Merci de nous écouter à Mopti. Merci à tous de votre fidélité à Appel sur l'actualité. L'émission revient dans 10 minutes, c'est le débat du jour. On parle de la présidentielle américaine puisqu'elle approche, c'est dans 10 semaines maintenant. À tout de suite sur RFI.